Une bonne nouvelle d'après Jean, lecture suivie de l'évangile de Saint Jean, dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
L'épisode précédent nous présente donc deux actions de Jésus. Nous disons maintenant deux miracles, c'est-à-dire deux actions qui étonnent l'œil. La première, c'est cette télé-guérison, cette guérison à distance où le fils du fonctionnaire royal va mourir et le père, apprenant que Jésus est entré en Galilée, se précipite chez lui pour lui demander. Mais avant que Jésus donne l'ordre à la maladie depuis l'endroit où il est, donc télé et guérison, il a une réflexion qui ne cesse pas d'être importante. C'est-à-dire, vous avez donc besoin de signes pour croire. Si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Thomas est toujours en nous et c'est inévitable. Enfin, je veux dire, ça n'est pas si étonnant que ça que nous ayons besoin de voir. Pourquoi ? Si nous voyons un signe, donc nous croyons. C'est-à-dire que si nous voyons un signe, donc nous ne croyons plus. Parce que croire, c'est ne pas voir de signe. C'est aller au-delà des évidences et dire « je crois que tu es celui-ci, que tu fais cela, et je n'ai pas de preuve. » Et pourtant, Jésus, comprenant notre condition humaine, va jusqu'à faire le signe demandé, alors que la foi la plus pure consisterait à ne pas en avoir besoin ou à y renoncer. Et le deuxième acte important que nous avons entendu, c'est-à-dire cette guérison du paralytique qui se trouvait depuis 38 ans bloqué sur les bords de la piscine de Bethsaida, cette fameuse belle piscine à cinq portiques qui existe toujours et qu'on a retrouvée à côté de l'église Sainte-Anne, merveilleux bijou d'art roman au nord-est du temple de Jérusalem. Nous avons donc ici non seulement le fait qui est étonnant, que veux-tu que je fasse, bien sûr, si vous voulez marcher l'autre, mais c'est surtout le fait qu'ils disent, non, celui qui m'a dit de me lever et de prendre mon grabat et de rentrer chez moi, eh bien, ça veut dire, c'est lui qui me l'a dit, et que ce soit le sabbat ou pas le sabbat, dans la mesure où il est capable de faire ceci, il est capable de faire cela, il est donc au-dessus de toutes les lois que nous autres humains, nous imposons aux autres humains. Double réflexion, double enseignement. Oui, nous avons besoin de signes. Y renoncer, ce serait la foi parfaite, en sommes-nous capables? Oui, quand nous avons cru et que nous obéissons à celui qui est au-dessus de toutes nos propres lois.
Plus tard, Jésus retrouve notre homme dans le temple. Te voilà de nouveau sur pied, songe maintenant à vivre en accord avec la grâce que tu as reçue. Il est des malheurs pires que celui qui était le tien. L'homme courut raconter à tout le monde que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les Judéens s'en prirent alors à Jésus, qui avait fait cela un jour de sabbat. « On ne peut empêcher mon père d'agir, ni moi non plus. Vous imaginez la rage qui activait la haine des Juifs. Non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre père, se faisant ainsi son égal. « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, continua Jésus. Le Fils fait seulement ce qu'il voit faire au Père. Ce que fait le Père, le Fils le fait. Voyez-vous, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et vous n'avez pas encore tout vu. Ainsi le Père fait vivre les morts et le Fils fait vivre qui il veut. Le jugement, le Père l'a confié au Fils de telle façon que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Les Juifs contenaient leur rage, et Jésus ajoute, « Si vous m'écoutez, si vous croyez en celui qui m'a envoyé, vous ne verrez pas la mort. Vous êtes déjà sauvés. » Le Père et le Fils ont la vie en eux. Ils sont la vie. Je vous répète que je ne puis rien faire de moi-même. Ce n'est pas ma volonté propre que je cherche, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La foule grossissait. Les Juifs étaient maintenant entourés des pèlerins montés au temple et qui entendaient Jésus pour la première fois. « Je n'ai rien à prouver. C'est un autre qui me sert de garant. Seul son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une délégation à Jean le Baptiste. Lui aussi a témoigné pour moi. » Vous savez que j'en ai pas besoin, mais je vous rappelle tout cela pour que vous vous ouvriez les yeux. » Le souvenir de Jean était vivace dans toutes les mémoires. C'est pourquoi Jésus poursuivit. « Jean était la lampe qu'on allume et qui brille. Vous vous êtes contenté de vibrer un instant à sa lumière. J'ai une preuve plus grande que son témoignage. C'est tout ce que le Père me permet d'accomplir. Mais jamais vous n'avez ouvert ni vos yeux, ni vos oreilles. Dieu n'est pas en vous, tant que vous ne croirez pas en moi qui l'a envoyé. Vous croyez qu'en vous plongeant dans les Écritures, vous trouverez la vie de Dieu? Mais c'est de moi qu'elle parle, les Écritures, de moi, que vous ne voulez pas reconnaître. » Un grondement de murmures et de haine ébranla le silence. Mais la peur musa la bouche des Juifs. La voix de Jésus se fit encore plus forte. La gloire des hommes, je n'en ai que faire. D'ailleurs, je vous connais. L'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est en son nom que je viens, et vous me rejetez. Qu'un autre vienne en son nom propre, et vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui cherchez la gloire des hommes, et qui vous fichez pas mal de la gloire que Dieu seul accorde? Oh, ne pensez pas que je vous accuserai devant Dieu. C'est Moïse lui-même qui s'en chargera, bien que vous alliez répétant que vous mettez en lui vos espoirs. Parce que si vous aviez cru en Moïse, vous croiriez en moi. Tout Moïse ne parle que de moi. Alors, si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis? Et avançant résolument vers eux, Jésus se fraya un chemin parmi la foule et quitta le temple.
Extraordinaire la façon dont, après plus de 60 à 70 ans de réflexion, de méditation sur le mystère même de celui qui a emballé sa jeune vie, le vieux Jean, repense à tout cela et l'écrit de façon aussi merveilleuse. Admirable discours qui est plus qu'un discours, qui est la prise de conscience intérieure du mystique Jean, se rendant compte de la relation intime entre ce Jésus de Nazareth qu'il a rencontré et le Dieu des Juifs, son Dieu à lui et son Dieu à lui, Jean, qu'il appelle Père. Mystère insondable, bien sûr, parce que incompréhensible s'il n'a pas été révélé, et indicible si quelqu'un n'a pas, comme Jean, d'autres après lui, médité sur le mystère même du Fils et du Père. Ça, c'est un côté des choses. Ce serait le contenu, nous dirions, du théologoumenon, c'est-à-dire de l'intention théologique du texte que Jean rédige. L'autre côté admirable, c'est le style, en même temps que toute la force persuasive, démonstrative, accusatrice de Jésus vis-à-vis de ceux qui ne le reconnaissent pas. N'oubliez pas que nous sommes 70 ans après la mort et la résurrection du Christ, et que Jean n'est plus en Galilée, ni en Samarie, ni en Judée, et qu'il se trouve, d'après la tradition, sur la côte actuelle turque de la mer Égée. Que leur dit-il ? Il leur dit qu'ils ne savent pas lire. Eux qui se prétendent être les fils du livre, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas lire Moïse. Ils ne comprennent pas ce que Moïse voulait dire. C'est ce que dit Jésus. Il est quand même naturellement insupportable que ce jeune homme, Jésus n'a qu'une trentaine d'années, puisse se permettre de dire des choses pareilles à des vieux professeurs recrues d'années et d'expérience et d'études approfondies. Mais aveuglés, mon Dieu, ne leur jetant pas la pierre, par leurs propres convictions, par leurs propres traditions, par leurs propres interprétations. Et si nous faisons le saut jusqu'à nous, après 19 siècles, imaginez la différence qu'il peut y avoir entre l'expérience même du Christ, c'est-à-dire celle que l'on fait du Christ, et les milliards de tonnes d'ouvrages théologiques que nous avons pu accumuler. Mon Dieu, heureusement qu'on ne les a pas tous lus. Heureusement que vous qui m'écoutez, vous ne lisez pas trop d'ouvrages de théologie. Je suis insensé de le dire, mais je crois que nous perdrions la foi. Il faut pouvoir les lire avec un œil critique tel, avec un œil muséographique tel, pour nous montrer combien, à travers tous les siècles, la pensée catholique romaine a essayé de rendre des comptes à propos de cette réalité incontournable qu'un homme soit le Fils de Dieu et que Dieu se soit incarné, et qu'entre lui et Dieu, entre le Créateur de l'homme et en même temps l'égalité de Dieu, il y ait une compatibilité. C'est inconcevable, inconcevable. Et on comprend qu'on ait pu, à travers tous les siècles des siècles, écrire tout cela. Mais notre théologie ne nous aveugle-t-elle pas ? Comme les commentaires divers de tous les rabbins de Jérusalem les empêchaient de voir crûment que Dieu est capable de s'incarner.
C'était une bonne nouvelle d'après Jean, une traduction transposition du père Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.